Vous écoutez France Culture. Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour cette semaine consacrée à Philippe Solers. Hier, Philippe, vous avez parlé de l'écriture. C'est l'écriture qui constitue votre vie depuis maintenant pas mal d'années, quelques décennies. Vous avez dit hier soir que dans l'ouvrage Femmes, vous parliez beaucoup de vous et de toutes les femmes, de certaines des femmes qui avait été importante dans votre existence. Et voici ce que vous écrivez sur vous, page 29. Que je vous raconte un peu ma vie tout de même. Il n'y a que ça d'intéressant d'ailleurs. La vie détaillée de X ou Z, point de suspension, pas celle des gens, entre guillemets, comme dit toujours Esther, la chérie. Est-ce que tu n'as pas peur que les gens pensent que, mais est-ce que tu ne crois pas que les gens... Oui, mais les gens ne se rendent pas compte. Là, j'ai bien peur que les gens... Pour Esther, les gens, c'est l'instance avec un grand I. On ne fait pas son salut individuellement, on agit par rapport aux autres. Ce n'est pas exactement le qu'en dira-t-on conformiste. Non, c'est plus profond, inconsciemment, religieux. Il y aurait en somme une biographie globale, un récit ensemble. Curieux qu'elle s'intéresse aux artistes, aux gens qui se moquent des gens, qui construisent leur destin sur le désir de ne pas être confondu avec les gens. Mais c'est ça qu'elle aime, représenter une valeur auprès de ceux qui la nient. Elle est un peu comme Kate, elle vient donner à la famille des nouvelles de ses ennemis et aux contestataires des nouvelles de la famille. Va-t'en, viens, c'est une tante. Les tantes se multiplient ces temps-ci. Ma vie donc. Alors votre vie ?
Alors, j'aime bien ce passage parce que les gens...
Vous endormez presque à l'idée qu'on parle de votre vie dans votre écriture de femme, Philippe Solers.
Oui.
Ça ne vous intéresse pas, votre vie ?
Si, la preuve, c'est que j'ai beaucoup écrit sur cette vie assez singulière. Mais j'aime bien le fait que le cliché, les gens, c'est qui les gens ? L'ensemblisation est une erreur profonde, de quelque bord qu'elle se manifeste. Être ensemble.
Vous, c'est pas votre genre. Hein.
Un écrivain ou un artiste ne peut pas être ensemble. Donc, maintenant que Dieu étant mort, Dieu est devenu société ou sociétal, c'est toujours la même histoire, que ce soit en politique, que ce soit en médias, que ce soit... Eh bien, il faut avoir son passeport. En général, il vaudrait mieux, et ce n'est pas mon cas, avoir comme passeport origine modeste. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Deuxièmement, il faudrait...
Votre famille n'est pas non plus une famille de très riches et de très puissants de Bordeaux.
Non, c'est justement ça qui est pire, si je peux dire.
Vous êtes de la moyenne bourgeoisie.
Non, de la bourgeoisie tout court. Non.
Ah ben, il y a plusieurs bourgeoisies.
Eh oui, bourgeoisie.
Le problème, c'est que vous êtes bourgeois et fier de l'être. Et fier d'être bordelais, parce que Bordeaux, vous chantez toujours Bordeaux.
Bordeaux. Quand la France s'effondre, vous avez peut-être remarqué, elle va à Bordeaux. L'Hexagone s'effondre, et en 1940 par exemple, eh ben, on va au point le plus éloigné du pays, à Bordeaux. Alors il y en a certains qui ont des convictions, qui prennent le Massilia par exemple, dont Pierre Mendès France, et même Henri Cueil, le Corrézien, qui s'est abstenu. Parce que c'était quand même le moment où la chambre du Front populaire donnait tous les pouvoirs au maréchal Pétain. Vous vous en souvenez, c'est de Bordeaux que le général de Gaulle s'envole pour Londres. Et alors tout récemment, qui c'est qu'on va déranger, le maire de Bordeaux, le pauvre petit Juppé ? Ils payeront le somme de venir à Paris, on le dérange, c'est très obscène. Il venait de faire une tournée triomphale à Hong Kong pour vendre le vin de Bordeaux. Et donc il a été reçu comme une grande star en Chine. Ça aussi, Bordeaux, le vin de Bordeaux fait un tabac, si j'ose dire, en Chine, comme vous savez sans doute. Et les Chinois viennent acheter des châteaux à Bordeaux. Jamais je n'aurais cru pouvoir voir ça. Par exemple.
Ah ben bah, c'était pas l'époque de Mao. Hein.
Si si non si enfin ça veut dire c'était il a fallu tout ce remue-ménage pour que je voie dans l'île de Ré en face de chez moi des Chinois. Je me dis qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent pour moi c'est sûr. Non, ils venaient étudier la fleur de sel, comment ça se ramasse et comment ça. C'est pas beau ça, le vin, la fleur de sel, voilà. Donc Bordeaux.
Que vous quittez quand même.
Oui, il fallait bien.
Parce que vous pensez que. Pour exister, il fallait être à Paris.
À l'époque, Bordeaux était une ville noire. C'était une ville punie. C'était une ville punie par l'occupation, punie par tout. Bah, bon. C'est maintenant une ville, d'ailleurs. Bravo Juppé. Il a refait cette ville, qui est une ville la plus belle de France, comme dit Stendhal, et qu'il la découvre ahuri. C'est une ville blonde, une ville fabuleuse, qui va tenir le coup. Donc, vous voyez, on dérange Juppé, on le renvoie chez lui avec une indécence absolument extrême. C'est pas croyable, alors que c'est une star à Hong Kong. Alors Paris, vraiment, c'est dégoûtant. L'histoire UMP est à mourir de rire. Bon, peu importe. Et alors après, qui est-ce qui est obligé d'aller à Bordeaux pour se justifier devant un juge? L'ancien président de la République, où est-ce qu'il est interrogé? À Bordeaux.
Ça n'arrête par le juge gentil.
Par le juge qui n'est pas gentil du tout. Et l'ancien président de la République fait cette déclaration admirable en sortant. Jamais je n'ai touché un sou de la famille Bettencourt. Un sou, sûrement pas. Mais peut-être beaucoup plus, j'en sais rien. Je ne voudrais pas juger à la place du juge. Enfin, vous voyez bien que tout ça est grotesque.
C'est-à-dire que ce pays. Il empêche à écouter la radio, à regarder la télévision.
Oh, bien
le
sûr.
Petit enfant est encore là, il essaye de décoder, de décrypter.
Mais pendant
13, tout ce qu'il
pendant,
entend.
Pendant 13 ans, j'ai écrit dans le journal du dimanche tous les mois. J'étais très, très, très bien.
Et pourquoi ça s'est arrêté?
Eh bien, parce que j'ai été viré.
Et pourquoi? Vous avez démérité?
Oh, démérité, moi? Non. Depuis que je ne suis pas là, c'est d'ailleurs d'une tristesse affolante. Mais enfin, peu importe. Non, je suis très content de moi. Peut-être qu'ils ont pensé que j'étais trop content de moi. Ou alors, ils n'étaient pas assez contents d'eux. Enfin, bref. Non, je ne sais pas, je m'étais moqué de tout le monde. Notamment de Madame Traveiller. Voilà, parce que j'ai trouvé quand même cette histoire de tweet à mourir. Parce que ça se passait en plus
mais
à
maintenant,
la Rochelle,
vous tweetez, pas. J'ai remarqué.
Voilà.
Depuis comme j'ai que Valérie été, le fait.
Comme la presse ne veut plus de moi, je
vous,
travaille
vous
sur le.
Blogueur
je suis chroniqueur, blogueur, Twitter, sur le site du Point, qui m'ont offert une hospitalité. Voilà. Et donc, ça
parce
me permet
parce que vous
ne
pouvez pas vous en passer de commenter l'actualité.
Je pourrais m'en passer, mais c'est mieux de vérifier ses réflexes, de vérifier qu'on est vraiment en train de déchiffrer quelque chose.
Est-ce que vous doutez de vous-même?
Mais non, je m'entraîne. Un sportif ne doute pas, il doit s'entraîner.
Alors je reprends la suite de Femmes, parce que en voulant commencer par raconter votre propre vie, vous mettez en scène plusieurs femmes, Esther et Kate. Mais donc après, vous continuez. Ma vie donc, l'équation d'où je suis partie, le point où j'en suis. Déjà, je m'endors presque. Raconter ma vie m'ennuie à mourir, ce n'est jamais ça. On ne peut que simplifier, grossir, amoindrir, rétrécir. Mais enfin, il faut. Essayons de tenir le fil. Érotique. Voyons, qu'est-ce que j'attrape là? Et là, je me transporte vers un autre texte qui va sortir la semaine prochaine, qui s'intitule donc « Portrait de femme ». Et là, vous donnez des conseils aux débutants dont vous avez parlé dans l'émission d'hier. Voici ce que vous écrivez. Je conseille aux débutants, avant d'atteindre une sérénité méritée, de commencer très tôt et dans toutes les dimensions possibles. Il est déjà expérimenté sur son propre corps. L'auto-érotisme n'a pas de secret pour lui. Il a beaucoup d'imagination. Il l'a satisfait sans culpabilité notable. Il a 12 ou 13 ans. Le suffrage à vue, dont vous avez parlé hier. Il vit dans un milieu privilégié où les employés de maison, cuisinières et femmes de ménage ont pour lui des attentions particulières. Il les observe, tourne autour, capte leur curiosité. Il a compris tout de suite que c'est à elles de faire des avances. Elles le font. Leur tempérament du sud-ouest s'y prête. Elles ont 30 ou 40 ans. Ce sont des mères d'origine paysanne expertes. Leurs caresses sont informées et précises. C'est le paradis sur terre. Donc, comprenne n'importe quel ouvrage de Philippe Solers, c'est le fil érotique qu'il faut d'abord tirer.
Mais le vert paradis, les amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines, avec les brocs de vin le soir. dans les mosquées. Ce qui est très remarquable, là, c'est le mot bro, B-R-O-C, vous savez, des bros de vin, c'est très étrange. Donc, vous voyez bien qu'on est à Bordeaux, vous voyez bien que je raconte ma vie dans ce poème de Baudelaire.
Mais ça veut dire que la découverte de l'amour va être consubstantielle de la découverte de la poésie.
Oui. Et si la poésie va si mal, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus d'énergie et de désir chez ceux qui osent encore s'appeler des poètes avec leur petit remue-ménage de plaquettes, de rien du tout. La poésie, c'est la grande poésie, ou alors c'est rien. C'est Baudelaire, c'est Rimbaud, c'est... Voilà. Il faut, pour la poésie, c'est pas René Char, c'est pas Saint-Jean de Perse, c'est pas Yves Bonnefoy.
C'est Francis Ponge.
J'ai travaillé avec lui, on a été très amis, et Dieu sait que c'était passionnant pour moi d'aller 34 rue Laumont, d'apporter un électrophone qu'il n'avait pas, de lui donner des disques. On écoutait du Rimbaud ensemble. Ponge, ah, quelle aventure! J'habitais boulevard Raspail.
Vous habitez toujours pas loin, d'ailleurs.
Une chambre pas loin. Le quartier me va. Bon. En face de l'Alliance française, je suis étudiant. Je vois qu'il y a un certain Francis Ponge qui donne des conférences l'après-midi. Francis Ponge, je sais un peu qui c'est, parce que j'ai lu le Parti pris des choses déjà à l'époque, je me renseigne beaucoup. J'y vais, et il y avait 7 ou 8 personnes. Ponge était dans le besoin le plus extrême. Donc il improvisait, il venait de publier dans la NRF un texte qui s'appelait « Les hirondelles », magnifique, tout ça. On est devenu, je lui montrais un peu ce que je faisais, qui envoyait à Paulan, bref, bon, voilà. Donc on est devenu très, très, très amis. Et c'est quelqu'un qui n'avait presque pas de quoi vivre. Maintenant, il est en Pléiade. Vous savez, c'est marrant comment on fait l'histoire. Tout est effacé, etc., les drames. Donc je l'ai invité avec sa femme à l'île de Ré, où il a pu manger et pêcher même des huîtres. Il y a un texte de lui sur l'huître qui est célèbre.
Très beau texte.
Et voilà. Après, on s'est fâché parce que 68 le dérangeait, qu'il était tout à fait malheureux. Puis alors, c'était un peu... C'était un très grand ami. L'embêtant, c'est qu'il était protestant quand même. C'est-à-dire qu'il y avait une tendance à la morale qui n'est pas l'éthique. Hein. Attention, là, la moraline infecte tout, comme dit Nietzsche, le mot est de lui, la moraline. Ah là là, combien de fois on me fait de la moraline? J'en ai plein mes repas de la moraline. Bon, on ne parle pas de littérature, on ne parle pas vraiment de littérature, on ne parle pas du langage, on fait la morale. Donc, puis Malherbe, tout ça, c'était un peu restreint. Voilà, bon, je suis parti et j'ai préféré de loin aller en Chine.
C'est peut-être pas ce que vous avez fait de mieux, d'ailleurs.
Oh, ben si. Comment vous pouvez juger, puisque vous ne savez pas ce que j'ai vécu?
Ben, vous allez nous le dire.
Parce que vous avez fait de mieux, dirait la presse ultra-réactionnaire ou de gauche,
non,
ou de droite.
Non, parce que j'ai lu, comme tout le monde...
Pas comme tout le monde, personne.
Vos déclarations.
Oui, mes déclarations. Ouais.
Ben, vous êtes parti avec Roland Barthes?
Roland Barthes est parti avec moi.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que si je n'avais pas organisé moi-même ce voyage avec une femme très importante dans toute cette affaire qui a disparu à tort, mon nom n'est même pas prononcé dans sa nécrologie, ce qui est quand même incroyable, parce que j'ai joué un rôle dans sa vie et elle dans la mienne. C'est Marie-Antoinette Machocchi, pour ne pas la citer. Et là, on peut rester quelques instants, longtemps, sur ces histoires avec Althusser, le Parti communiste italien, tout ça. Bon, comme les gens ne veulent rien savoir, cette histoire de Chine, c'est résumé.
Vous n'y alliez pas pour des raisons politiques?
J'y allais parce que je voulais aller en Chine. Je raconte ça dans mon enfance, le globe terrestre qui tourne. Qu'est-ce que c'est que les tribulations?
Les idéogrammes.
Oh là là, les vases, l'écriture, la poésie. Bon, alors si je vous dis que par exemple, Mao a été certainement le plus grand criminel du XXe siècle, au nombre, pas en qualité d'horreur.
Vous dites que ce qui vous a intéressé...
Qualité d'horreur, c'est Hitler, il n'y a pas de doute. Seulement, il faut bien mettre les choses en perspective. Staline, pas mal. Hitler, thèse, antithèse. Synthèse criminelle, Mao. Après ça, c'est fini. Donc, il y a maintenant...
Ça, vous ne le saviez pas au moment où vous partiez.
Mais c'était la question.
Vous dites que c'était l'homme qui se baignait dans le Yangtze avec centaines et des centaines de soldats qui l'admiraient. Que c'est cette image-là qui a déclenché un désir d'aller voir de plus près.
Regardez encore cette image et en couleur, s'il vous plaît. Vous verrez que pour quelqu'un d'un peu attentif, j'étais en train de lire du chinois parce que j'ai fait 2 ans de chinois quand même pour voir comment ça fonctionnait.
Langzhou.
Ou ce genre. Privé, des leçons particulières. Le seul personnage d'enfant dont on ne me parle jamais est une chinoise qui s'appelle Izia. Comme par hasard, on ne me parle jamais.
Elle est là, d'enfant.
Elle est là, oui, mais personne ne m'en a jamais parlé. Comme c'est curieux. Non, bizarre. Oui, je voulais voir la Chine et je l'ai la ressentir profondément. Donc, ce qui n'était absolument pas prévu, c'est extraordinaire essor capitaliste chinois. Capitaliste, communiste, comme vous voulez. Mais bon, c'est pas ça le problème. Et ce qui m'intéresse, c'est que, premièrement, 3000 ans de civilisation. Où étaient les États-Unis d'Amérique et la France, voilà. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont en relation de plus en plus avec leur propre culture, malgré le déferlement capitalistique, etc., et le fait qu'ils deviennent de plus en plus occidentalisés, tout ce que vous voudrez, la marchandise, les marchés financiers. Bon, comme vous savez, c'est le premier pays désormais économique sur la planète. Pourquoi ça s'est fait à cette vitesse ? Pourquoi sortons d'un régime ultra-totalitaire et terroriste à une suprématie de cet ordre ? C'est quand même déjà très intéressant, puisque ça pourrait faire la Russie... Non. C'est une autre culture. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est très difficile d'en parler, parce qu'on ne peut pas en parler avec plus de 4 ou 5 personnes maximales. Ce n'est pas raisonnable. C'est comme si...
Avez-vous été maoïste ?
Pour la presse, oui. Mais je n'ai jamais appartenu à aucune organisation de ma vie. Je n'ai jamais appartenu à aucune organisation politique. Pour les uns, j'étais communiste. Pour les autres, j'étais maoïste. Pour les autres, je suis papiste. Pour les autres, j'évolue librement, à ma guise, selon mes instincts et les situations. Voilà.
Oui, mais à l'époque de ce voyage en Chine et au retour, vous avez écrit des articles qui vantaient les mérites du président Mao.
Je ne crois pas. Je crois que j'avais écrit autre chose, c'est-à-dire un livre qui s'appelle « Sur le matérialisme » avec une souris. Pas d'article, non, en mettant l'accent sur un texte que j'ai commenté d'ailleurs en public, qui est un texte absolument magnifique, si vous voulez, on passe une heure là-dessus, qui s'appelle « Sur la contradiction » du dénommé Mao Tse-Tung, qui n'est pas la brute épaisse qu'était au fond Staline qui faisait semblant de lire Héraclite, ou Hitler qui ne savait rien du tout, ou Mussolini qui faisait semblant d'exister, ou Pétain, bon, n'en parlons pas. Mao était un, qu'on le dise le contraire, m'étonne toujours, quelqu'un qui, dans la graphie même, prenait quelque chose comme un rythme.
Mais on s'en fout de la graphie de Mao Tse-Tung.
Ah, pas moi.
C'est peut-être pas ça l'important.
Ah, l'important, non. Mais quelqu'un qui méconnaîtrait complètement la culture chinoise, c'est-à-dire tout le monde que je rencontre tous les jours, qui ne saurait même pas de quoi il s'agit, qui confondrait la Chine avec je ne sais quoi, avec le Japon par exemple, alors que ça n'a rigoureusement rien à voir, je m'étonne et je suis en droit de m'étonner d'une aussi parfaite indifférence et d'une aussi parfaite ignorance. C'est exactement la même chose pour ce qui est de l'Italie, de la planétarisation de la mafia. Je répète, il faut lire le livre de Jacques de Saint-Victor qui s'appelle « Un pouvoir invisible ». Je m'étonne tous les jours de voir des gens qui ne savent pas sur quelle planète ils habitent. C'est-à-dire la planétarisation de la mafia. Les Français ne sont pas au courant. Ils croient que ça se passe dans le Parrain de Coppola, etc. C'était le bon temps, c'était l'imagerie du cinéma. C'est tout à fait autre chose. Il faut voir ce qui se passe.
La repentance, ce n'est pas votre truc. Hein.
Mais la repentance, vis-à-vis de qui ?
Ben, vis-à-vis de vos propres illusions.
Mais j'ai pas eu d'illusions, jamais. Vous comprenez, alors,
vous n'avez pas cru à l'avènement d'un nouveau monde?
Jamais.
À l'émergence de nouvelles valeurs?
Il faudrait être crétin pour penser à l'avènement
à la révolution.
Mais la révolution, c'est un moment très intéressant dans un processus très complexe, etc. Ah là là, les illusions, non. Vous comprenez, c'est quoi la poésie? C'est quoi? C'est d'abord une façon de vivre.
Comment?
Comment?
Je m'explique. Vous en parlez dans votre dernier
ouvrage. Je m'explique beaucoup
ouvrage.
Là-dessus. C'est une façon de vivre. C'est une façon de
vivre. Se lever tôt.
Oui, par exemple.
Marcher beaucoup.
Oui, par exemple.
Vivre à Venise ou à l'île de Ré.
Oui, voilà.
Savoir parler aux oiseaux.
Ah oui, siffler. Siffle aux oiseaux, me dit mon fils, c'est ça. C'est une façon de vivre.
D'aimer.
Oui, voilà. C'est une façon de vivre la plus libre possible. Je considère que personne ne me dicte, n'a me faire pression ou à me dicter ce que je vais dire. Vous savez, c'est pas rien dans le monde où on vit. L'amour, la poésie. Bon. Non, mais c'est une façon de vivre. Mais. Vous comprenez, c'est la guerre. Qui a dit la poésie, c'est la guerre? Mandelstam, il savait de quoi il parlait. Il y est passé d'ailleurs, sous Staline. C'est la guerre. Ah, la guerre comment? La guerre de tous contre tous, les grandes guerres. Vous voulez parler de 1914, 1918, oui, par exemple. Ou non, pas de ça, oui. La guerre comme intrinsèque. À la façon de dire, de s'exprimer, de vivre sa vie, en la disant. Parce que tout le monde voudrait vous empêcher, un, d'être libre, deux, de vous déplacer comme vous voulez, trois, d'écrire ce que vous voulez, quatre, d'être comme vous êtes.
Mais quand on regarde tous ces livres publiés, Philippe Solers, on peut se dire que peut-être, à certains moments, et justement à l'aube des années 70, vous êtes toujours resté libre, mais à ce moment-là, peut-être que vous avez été guetté par les idéologies, non?
Pas du tout, jamais.
Que votre écriture s'en est trouvée transformée?
Jamais, jamais. Je peux me servir de l'idéologie, je peux me servir des situations, je peux me servir des médias, je peux me servir de n'importe quoi. C'est la guerre. Il s'agit de se libérer le plus possible. Dans les années 70, cher Laure Adler, j'ai écrit un truc qui s'appelle Paradis. J'aime autant vous dire que c'est, pour ce qui est de l'idéologie, c'est pas ce qu'il aurait fallu faire.
Alors vous l'écrivez, mais vous ne le publiez pas. Il y a une sorte de...
Je le publie en extrait.
Il y a une période de silence à l'intérieur de vos publications va durer 6-7 ans. C'est pendant ces années-là que vous... Vous écrivez Paradis avec effectivement de nouvelles règles que vous assignez à vous-même dans l'écriture la définition même de la littérature.
Je fais différentes choses. Je vis d'abord d'une façon assez compliquée et assez intense. Ce qui n'est pas...
Entre plusieurs villes, New York, Venise, Paris.
Oui, Barcelone, Venise, Paris, l'Espagne, l'Italie. Voilà.
Vous avez plusieurs maisons en même temps?
Non, maison, non.
Appartement.
J'ai des points fixes. Enfin, il y a des hôtels partout.
Ah non, mais chez vous, quand on vous lit, on s'aperçoit que quand même...
Je suis parfois
reçu. Le
moment
du lever est très important pour définir la journée.
Je suis parfois reçu dans des appartements. Voilà. Par exemple, les appartements de Julia Kristeva à New York ont toujours été absolument épatants. Il y en avait un pratiquement dans Harlem, épatant. J'étais très, très heureux à New York.
Là, vous êtes un clandestin.
Oui, parce que, comme je le dis, c'est ça qui est amusant. Comme elle est très star universitaire, je suis absolument inconnu. Ce que j'écris, les Américains n'en ont rien à foutre. Et moi, je n'ai rien à foutre des Yankees non plus, que je trouve lourdingue, à côté complètement de la plaque. Peu importe. Donc, l'université, c'est puritain, les États-Unis, il ne faut pas l'oublier.
New York.
Même New York, à moins d'être homosexuel. Et là, c'est une autre affaire. Alors, ça, c'était... Bon, c'était quand j'étais... À New York, j'habitais dans Soho, etc. C'était le commencement du sida. Je rentrais, alors vraiment, c'était une énorme. C'était très étrange, très, très étrange. Heureusement qu'il y avait beaucoup d'Européennes à New York. Il y a des Chinois, il y a des Colombiennes, il y a des Portoricaines. Je peux parler espagnol parce que je comprends mal les Yankees. Enfin, tout va bien. Donc,
Comment ça, tout va bien parce qu'il y a des femmes?
Ben oui.
Des jeunes femmes.
Ben oui, c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui fait que je m'amuse plus qu'avec des hommes. Les hommes m'ennuient en général. Tiens, c'est curieux, Sartre dit à peu près la même chose. Et Dieu sait qu'on n'est pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Sauf sur la question...
Tous les hommes ne vous ennuient pas.
Non.
Lacan ne vous a jamais ennuyé.
Ah, mais Lacan, c'était pas un homme. C'était un monstre intéressant, hein, oui. Non, je veux dire, n'importe quelle femme. Hein. Oh, il y a une anecdote magnifique de Manet. Manet souffrait beaucoup, vous savez, à la fin de sa vie, il va être amputé de la jambe, il souffrait vraiment. Et l'un de ses amis raconte, ah, comme c'est curieux, Manet souffrait. Mais il suffisait qu'une femme soit là, n'importe laquelle, et il devenait aussitôt très, très gay. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Manet, qui a passé son temps quand même à comprendre de quoi il s'agissait dans l'allure féminine, enfin, bon, la touche de pinceau d'une intelligence formidable. Picasso a regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Ça veut dire une perception très, très rapide, très... Enfin, créatrice. Voilà. Quand je suis avec des hommes, je ne suis pas en état de création. Je les écoute plutôt et j'essaye de les conforter.
Avez-vous appris de certains hommes que vous avez rencontrés, pas des moindres d'ailleurs?
Oui, il y a des choses qui se passent très étranges. Par exemple, un certain silence, pour moi très 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 intéressant, de Georges Bataille. Georges Bataille venait nous voir à la fin de sa vie dans le petit bureau de tel quel. C'est l'effet de présence le plus étonnant que j'ai vécu dans ma vie. Il disait très peu de choses, d'une voix très douce. Vous savez, au lycée, par exemple, on m'appelait la brute. On n'a pas assez d'enregistrement de la voix de Bataille. C'est l'être humain, enfin humain entre guillemets, parce qu'il y avait un côté sacré comme ça, oui, qui m'a fait la plus forte impression, de loin, de loin. Après, il y avait en effet Lacan qui était marrant, quoi. Enfin, c'était un truand merveilleux. Enfin,
vous êtes retourné au séminaire.
Ben, je ne suis pas retourné.
De nombreuses fois.
Oh là là, j'aurais évoqué ça pour rien au monde, parce que c'est le plus beau théâtre à ce moment-là. Le silence le plus impressionnant, donc le plus profond, donc l'expérience physique la plus formidablement intéressante, Bataille. Bon, les écrits de Bataille, je ne vous les présente pas, ils sont disponibles. Ma mère, notamment, qui n'en est plus extraordinaire, ou Madame Edouarda, Histoire de l'œil, etc. Bon, il a fallu 40 ans pour que les romans de Bataille soient publiés en Pléiade. Est-ce que vous imaginez le laps de temps, l'abîme? Bon, et Lacan, il y avait... c'est Lacan qui m'a convoqué. Il avait lu une interview de moi et il a pensé que j'étais sensible à ce qu'il appelait son enseignement. Il y a eu un malentendu complet, il m'invite à déjeuner et il me dit « Qu'est-ce que vous faites comme thèse ?» Donc il pensait qu'à l'université... Maintenant, il s'en foutait perdument. Vous ne pouvez pas lui parler de l'université, il était bibliothécaire dans un coin. Mais enfin, ça ne se passait pas à l'université. Ça ne se passe d'ailleurs jamais. Quelque chose de très, très, très important ne se passe jamais à l'université. Jamais. Alors, dès qu'on dit ça, c'est le blasphème.
Peut-être en 68.
Ben, pour la détruire, oui. Il fallait faire sauter tout ça.
Pour y vivre, jour et nuit.
Oui, bon, enfin, le ghetto de Vincennes, croyez-moi, j'ai assisté à la façon...
Ah, mais je parle de la Sorbonne, moi.
Oui, la Sorbonne, oui. Enfin, bon, ben, tout ça... Non, j'ai rien contre les universitaires. Il faut de l'érudition. On en a besoin. Mais enfin, bon, la République...
C'est pas vous qui allez dire le contraire.
La République des professeurs... Mais
l'érudition, c'est votre passion.
Mais je lis, mais non.
Que ça soit en botanique, en philosophie.
Mais c'est pas de l'érudition, cher ami.
En sciences exactes.
C'est pas de l'érudition. C'est une façon de donner du savoir, une certaine énergie d'écriture. Le savoir m'importe, mais pas le savoir tâcheron. Bref, Lacan, c'était bien. Il improvisait, c'était théâtre. Merveilleux. Et j'allais souvent le chercher chez lui. Après, il poussait de grands soupirs, ce qui était très touchant. Ah ! Alors évidemment, il avait vu tout l'après-midi des névrosés, des hystériques, des névrosés obsessionnels, des pervers, des psychotiques.
Et jamais ne vous est venue l'idée, ni à lui ni à vous, de vous allonger sur son divan.
Mais non, rue de Lille. Je pense qu'il avait assez envie que je vienne lui raconter. Bon, parce qu'un jour, il m'a dit « Oh, vous ne viendriez pas avec moi à Venise ?» ou nul non. J'ai décliné, parce que quand même...
Venise avec Lacan.
Oui. Mais j'étais pas paxable là, non, voyez-vous, c'est pas le problème. Non, mais il était très, très. Il parlait pas pour ne rien dire, vous comprenez, c'est ça. Et avec une certaine.
Il n'y a pas de rapport sexuel.
Oh, ben, écoutez, que veut l'hystérique, un maître sur lequel elle règne, il faudrait mettre ça en capital partout. Enfin, c'est d'une précision, d'une merveille. La femme, là, n'existe pas. Merveilleux. Il n'y en a pas là. Et ça a un aspect anti-religieux admirable. Hein, il n'y a pas là. Ou il n'y a pas de rapport sexuel. Ça, en général, personne ne comprend très bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des actes sexuels par centaines, par milliers, par dizaines de milliers. La nuit qui vient de s'écouler, ou 100 000, ou 1 million. Il n'y a pas de rapport, simplement, de mathématiques entre... évidemment, c'est le moment où il faut savoir si on insiste ou pas sur la différence sexuelle. Est-ce que ça existe ou faut-il passer son temps à la nier, ce qui est en cours constamment.
Et oui, évidemment. Vous voulez parler de la notion de genre et des gender studies là. Il n'y a pas de sexe, il y a une appartenance individuelle à ce qu'on voudrait être notre destin. Oui. Vous êtes un homme, vous pouvez devenir une femme.
Oh, sans blague.
Bah, c'est récent, cette émergence de cette nouvelle science. Vous n'y croyez pas ?
C'est
un territoire nouveau de liberté, choisir son sexe.
Sûrement.
On n'en hérite pas.
Non. C'est un territoire nouveau de...
Vous étiez garçon et fier de l'être, alors. Et quoi ? Heureux de l'être. Et heureux toujours de l'être. Bah, écoutez, en vieux garçon.
Pourquoi vieux garçon ?
Vous avez vieilli vieux garçon. Tout le monde.
Ben non.
Oui, il y a des vieilles filles, des vieux garçons, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mariés.
Pas de vieux garçons, je suis très bien marié, j'ai eu beaucoup d'aventures dans ma vie, ça va, je ne vais pas très peigné. Vous trouvez, moi je n'ai pas l'impression, mais si vous le trouvez, j'accepte. Je ne comprends pas très bien ça. Non.
Vous êtes toujours le bébé solaire.
Non.
Le bébé joyau.
Oui, non, pas bébé, non, oui, je ne sais pas. Enfin...
Vous avez tout le temps.
Quoi ?
Vous avez tout le temps pour continuer à écrire. Vous vous projetez dans l'avenir ?
Là, écoutez, là, la conversation prend tout à coup un tour métaphysique très important. L'or. Vous venez d'évoquer le temps. Sein und Zeit.
Alors, voilà notre petit Heidegger, car vous connaissez bien l'œuvre de Heidegger.
Ah oui. Alors, où est-ce qu'on en est avec le temps ? Vous savez, c'est la fameuse question que pose Arthur Cravan dans sa visite à André Gide. Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ? Et Gide sort sa montre et lui dit, il est 6h moins le quart. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est le temps ? L'être, le temps ? Voilà, ça c'est la question absolument fondamentale. Notamment si on est chronophage. Probablement que vous imaginez le temps comme allant de votre naissance à votre mort, avec les deux dates qui sont, j'espère, gravées de façon convenable sur votre tombe. C'est le temps, hein, c'est la mort.
Bah avec vous, non, c'est alors, de la fulgurance, le temps.
Ou alors, time is money. Alors voilà, nous sommes... Qu'est-ce que c'est le temps ? C'est le temps comptable, c'est le temps calculable, c'est le temps de l'oppression, c'est le temps de la rentabilité. Monsieur et madame les marchés financiers annoncent le mariage de leurs enfants, ou plutôt le mariage pour tous de leurs deux enfants mâles avec monsieur et monsieur les gens. Enfin, vous voyez, c'est la confusion. Qui s'empare du temps ? Voilà. Qui sont les propriétaires du temps ? Ben, les marchés financiers, je ne sais pas. Vous voulez qu'on aille dans des offshore pour voir quels sont les vrais propriétaires du temps, c'est-à-dire de l'argent, en fait. Donc, on est tellement infecté de cette aliénation du temps que j'y résiste absolument. Je suis tout à fait réfractaire à ça. Alors, si vous me dites « vous vieillissez », ça voudrait dire que je n'ai plus...
Mais ça peut être heureux.
Oui, mais j'ai toujours été heureux.
Vous n'avez pas d'âge.
Je ne suis pas chronophage. Je ne me repais pas de ces critères. Autrement dit, si je vieillis, vous aurez le droit de le dire quand vous me verrez tirer moins bien à la carabine, par exemple. Oui.
Tirez à la carabine.
Assez bien.
Ça, vous n'en parlez pas dans vos livres.
C'est un don de mon grand-père maternel qui était escrimeur, qui s'est transmis d'ailleurs à une de mes sœurs qui était absolument considérée comme une tireuse. Vous savez, la pigeon, poule, etc. Et c'est, il paraît, bon, j'y crois pas à tout ça, mais il paraît que c'est héréditaire.
Enfin, puisqu'on parle du temps, la mort vous encercle.
Ah bon ?
Ben oui,
sans blague.
Dans votre ouvrage qui va paraître, qui est très beau, il est beaucoup question de quelqu'un que nous aimions beaucoup ici, à France Culture, et qui s'est éteinte, dont vous avez prononcé l'oraison funèbre, et qui vous appelait « mon petit chéri ».
Oui, ça c'est Dominique dont je parle.
Dominique Rollin.
Oui, bien sûr. Dans le livre hebdo...
La femme écrivain.
Oui. Dans le livre hebdo, le type qui a fait l'article, qui était d'ailleurs plutôt convenable, a écrit que j'ai eu une aventure torride avec Dominique au riz. Du coup, ça m'a paru extravagant. Vous voyez les fantasmes.
Oui, mais vous voyez aussi le machisme, parce que j'ai beaucoup de respect pour Dominique Horry, mais encore plus pour Dominique Rollin. Donc, on confond les Dominiques quand elles sont écrivaines.
En tout cas, faire une erreur comme ça est énorme. C'est énorme. Peu importe. C'était une... écoutez, il y a son portrait, je vais pas le reprendre en moins bien.
Non, mais je parlais du temps qui passe.
Eh bien, j'ai... oui.
Et de la fidélité par-delà l'absence que crée la disparition.
Ça s'appelle l'amour, vous comprenez. Et vous dites encerclé par la mort, j'ai pu vérifier. C'est pas la seule fois, mais quand même, ce sont des expériences tout à fait limites. Ça, c'est très biblique. Vous savez que l'amour est fort comme la mort. Ouais, on dit ça.
Mais vous l'avez vécu, manifestement.
Eh bien, je vous dis que c'est vrai. Voilà. L'amour est fort, ou même, on peut pas être plus fort que la mort, parce que, quand même, voilà, ça, c'est autre chose. Mais, mort, où est ta victoire, comme a dit quelqu'un.
Non. Revenons à l'écriture de Paradis, à cette période qui l'a précédée. Quand on relit Paradis, on est extrêmement impressionné par l'invention du langage, le dessaisissement de tous les codes, l'assignation de sa propre identité d'écrivain. Jamais vous n'avez été si loin. Est-ce que vous accepteriez de lire une page de Paradis qui ne comporte donc... aucun.
Si vous avez un joint sur vous, je...
Ah non, il n'y a pas ça à Radio France.
Il n'y a pas à Radio France, il n'y a pas...
Non, de... mais on va... le joint, c'est votre langue.
Parce que, oui, absolument, là, notamment.
Mais à votre âge, vous fumez encore des joints?
Non, pas maintenant. C'est pour rire et vous rappeler que, alors que ça saute aux yeux dans ce genre d'expérience, personne, sauf un journaliste qui était allemand, d'ailleurs, ne m'a jamais demandé la moindre précision sur...
Mon
emploi des stupéfiants. Mais écoutez, j'attends qu'on en parle. L'Afghan, le bon Afghan d'autrefois, noir, les herbes, enfin la colombienne, mon Dieu, quand on te vient, un cheval qui est votre propre corps, et donc. Quand on monte son corps comme un cheval, ou alors les rires invraisemblables, ou hachiche, les rires invraisemblables. Vous savez, il y a un paradis artificiel de Baudelaire magnifique. Il faut que quelqu'un reste voyant, c'est-à-dire ne participe pas, parce qu'autrement on peut se faire la libellule au dixième étage. Vous comprenez ? Oh, on croyait que tu savais faire. Oui. Oui.
Donc paradis, c'est apprendre au sens littéral du terme.
Mais écoutez. Voilà, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
On est toujours trop naïf avec Philippe Solers. J'ai choisi une page que j'aime beaucoup,
enfin, écoutez,
mais vous pouvez
en prendre. Il y a des tas de gens, heureusement, qui s'y sont reconnus. En général, pour essayer de faire pareil, et en supprimant la ponctuation, c'est-à-dire sans entendre que c'était fait pour être écouté, parce que
c'est du vocal. L'oreille, comme souvent chez vous.
C'est écrit à l'oreille, oui, absolument. Tu ne serais pas ce qu'est un déjà si tu ne partais pas d'un autre déjà. Et ainsi, de déjà en déjà, malgré les dégâts, tu t'enroules anneau bref éclat. La pensée du retour est un retour, non pas de la pensée, mais dans la pensée qui ne t'a jamais lâché, relâché. Elle ne te revient pas, c'est toi qui avances en refaisant sur ses pas. Tu ne peux rien lui reprocher. Tes histoires n'ont eu lieu qu'en toi, par rapport à toi. Comment ? Pas un dépôt, pas un reste. Tremblement, choléra, peste, naufrage, guerre, mélancolie, incendie. Comme ça, pas un rappel de frisson, vengeance, revanche, passion. Où sont passés les deuils, les cercueils, les films permanents de l'œil ? 1896. Entrée des frères Lumière. Allée du bois, encombrée. Cabriolet, ombrelle, dentelle, crottin et gratin. Ils sont tous là, se pressant aux courses, se flairant, se humant. Petit Proust avec sa maman, costume marin, boucle douce, 18 ans plus tard, à la trappe. Égorgé, tailladé, baïonnette. Pâté, mitraillé, charge du cuirassier des touches, à plumier, mais pour l'instant, Milodan, là, gain des éphémères, moustiques, papillons, notaire, chaîne de montre, gousset, paltoqué, pesage, dîner d'un féa. Vous êtes bien laide ce soir, Madame Ubu. Ah, est-ce que parce que nous avons du monde ? La scène se déroule en France, c'est-à-dire nulle part. Et voilà, ça repart. Macadam, embouteillage, drague de nuit, travesti, pompier bourré à la chaîne, flagrant délit, industrie. Ce n'est plus le temps perdu, mais foutu banlieue. Tassé, casemate, cage, poule, design, automate, cuisine, plante verte, living à moquette, étagère binoctale, dort bien. À demain. Une enquête récente montre que les hommes et les femmes font de moins en moins l'amour, que le sperme du mâle s'appauvrit chaque jour, que l'atténuation des sanctions décompose le flasque en cloaque. D'ailleurs, ils lisent aussi de moins en moins. Simple coïncidence. Mais alors, d'où vient ce silence avec tant de bruit ? Que veulent dire ces tortures, angoisses, jalousies, frénésies ? Pourquoi ça les touche, cette histoire d'écrit ? Pourquoi ça les remue dans leur nid ? Pourquoi ces spéculations, commissions, proliférations, champollions, et ces surveillances, pressions, régressions, carrés, cartons blancs ou jaunes ? Sens obligatoire interdit, ils sont pourtant forcés de s'appeler, de signer, de voter. Mais qu'est-ce que définir son nom dans les noms ? Qui est libre avec ça ? Qui ne dit pas non à son nom ? Je vais vous dire, je suis ce que je dis au nom de mon nom.
Merci Philippe Solers. Merci d'avoir accepté toute cette semaine. Nous nous retrouverons demain avec Julia K. Et merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Marie-Laure Ciboulet, à Philippe Palares, Catherine Parent, Didier Lagarde, Anne-Vanessa Prévost, Brigitte Bouvier. Vous écoutez France Culture, les ateliers de la nuit.